C'est vrai que c'est très pratique. On a eu beaucoup de bons commentaires là-dessus, hein, des personnes qui s'en servent pour étudier. Il y a des membres de l'Église qui ont les messages du dimanche. Thérèse Fortin, tu es où? Est-ce que tu es là ce matin? Oui. Combien d'années est-ce que vous avez? Je pense que ça recule au moins 5, 6, 7 ans ou quelque chose, hein? Non, non, que vous gardez les feuilles du dimanche matin. Elle a une cartable, elle m'a montré une fois. C'est incroyable. Elle a tous les messages du dimanche et c'est pratique. Il y a des personnes qui s'en servent aussi pour partager avec les membres de leur famille qui fréquentent pas une église. Donc, il arrive dimanche après-midi pour un dîner, quelque chose, et hey, voici qu'est-ce que notre pasteur a prêché. Et c'est intéressant des fois. Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu le cas. C'est une bonne pratique, hein? Une bonne discipline. Donc, mais on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire, OK, avec enthousiasme, tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans une direction qu'on a commencé un peu la semaine passée. La semaine passée, on a parlé, c'était le premier dimanche de l'année 2008, et on a parlé de quelque chose d'important. On croit que l'année 2008 est supposée d'être une année de paix et de prospérité. Et on a dit, même la semaine passée, que quand on parle de la paix, on ne parle pas juste de l'absence de la guerre. La paix biblique, selon qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu, la paix, ça comprend beaucoup plus. En fait, le mot paix en hébreu, c'est quoi? C'est shalom. Et shalom veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons dans la paix. Il veut que rien soit brisé dans votre vie. Il veut que rien manque dans votre vie. Et vous savez que nous vivons dans un monde qui est infecté par le péché. Il y a plein de choses qui sont brisées. Il y a des relations qui sont brisées. Il y a des finances qui sont brisées. Il y a des corps physiques qui sont brisés. Il y a la paix qui est perturbée. Donc, il y a plein de choses qui manquent, plein de choses qui sont brisées dans ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, qui est le prince de la paix, comme Rachel a dit, le prince de Shalom, c'est en lui et par la foi en lui qu'on peut retrouver la paix. Et c'est ça que j'ai vraiment à cœur pour les prochaines semaines. On va parler un peu de cela, comment avoir la paix dans sa vie. Et la première chose, aujourd'hui, on va commencer avec une certaine domaine de la paix qui, je trouve, bien important. Et vous allez voir que c'est important et je crois que vous allez grandir dans votre connaissance et compréhension de l'importance de ce domaine aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment découvrir les clés de la prospérité. Parce que Dieu veut qu'on soit prospère. Et comme on a dit la semaine passée, la prospérité, c'est beaucoup plus que avoir beaucoup d'argent. Vous êtes d'accord? La prospérité, c'est comme on voit en 3 Jean chapitre 1, mais en fait, il y a juste un chapitre en 3 Jean et verset 2. On voit ceci, l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. » Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit de dire cela. Est-ce que vous croyez que toute Écriture est inspirée de Dieu? Donc ici, dans cet épître, on voit que le Saint-Esprit dit, à travers l'apôtre Jean, « Bien-aimé, est-ce que vous croyez que vous êtes bien-aimé en Jésus? » Donc, savez-vous que ce verset vous parle aussi? « Bien-aimé, je souhaite que tu... » Fais quoi? « Que tu prospères à combien d'égards? » À tous égards, et sois en quoi? En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on va parler aujourd'hui de comment découvrir ces clés de la prospérité. Et je crois que le Seigneur veut exploser certains mythes et certains mensonges qui pourraient vous rendre misérables. Il y a des mythes, il y a des mensonges que, religieux que les gens ont cru à travers des siècles qui ont rendu les êtres humains misérables. Combien de vous, vous êtes vraiment convaincus que Dieu veut que tu prospères? Ok, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus là, entre les oreilles, et ils savent que, en principe, en théorie, je suis supposé d'être prospère, mais vous savez que c'est pas assez juste d'avoir une idée ou une théorie. Il faut que ça se traduise dans la vie quotidienne et dans la pratique, n'est-ce pas? Et on va voir aujourd'hui et probablement pour un couple de semaines, on va voir comment avoir la paix même dans le domaine de vos finances. C'est important. On va voir après ça probablement comment avoir la paix dans vos relations et votre mariage. On va avoir aussi des messages sur comment avoir la paix dans votre corps physique, comment marcher en bonne santé. Parce que Dieu veut que nous soyons en paix. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Jésus n'a pas dit d'aller et prêcher une mauvaise nouvelle. On devrait, à chaque fois qu'on prêche l'Évangile, nous devrions laisser en arrière de nous une longue ligne de personnes heureuses parce qu'ils ont reçu la vie éternelle, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils sont transférés du royaume des ténèbres, nés de nouveau, ils sont au courant de tous les bienfaits que Dieu leur a promis et ils vivent dans la prospérité et la paix. Amen. Allô? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ben, j'ai quelque chose de vraiment super, extraordinaire. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire ce matin. Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si vous pouvez saisir ce message, OK? Il va falloir, par exemple, que vous enleviez vos lunettes religieuses. Si vous avez des lunettes religieuses, si vous avez les lunettes traditionnelles, vous avez entendu et cru certaines mythes et certains mensonges, ça va vous empêcher de recevoir le message. Donc, enlevez-les et on va lire la parole de Dieu aujourd'hui comme si c'était pour la première fois. Amen? Donc, découvrez les clés de la prospérité. Donc, qu'est-ce qu'on sait, c'est que si on veut prospérer, qu'est-ce que Jean a dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on voit tout de suite que le pas numéro un, c'est d'être prospère au niveau de notre âme. C'est quoi votre âme? Vous êtes une personne sur trois dimensions, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. Quand vous êtes né de nouveau, c'est votre esprit qui est régénéré et changé instantanément à l'image de Jésus. En fait, Jésus vient habiter dans ton cœur. Il enlève la nature pécheresse. Il vous lave de tous vos péchés. Il vous purifie. Et si on pourrait aujourd'hui avoir une vision rayon X dans l'esprit, on pourrait voir Jésus dans le cœur de chaque chrétien ici aujourd'hui. Amen. On pourrait voir Jésus sous forme de semence des fois, parce que les caractéristiques de Jésus ne sont pas pleinement développées chez tous les chrétiens, mais la semence est là, le potentiel d'être exactement semblable à Jésus, il est là dans l'esprit. Amen. Mais le problème, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, notre esprit est changé, mais notre âme, et c'est quoi notre âme? Notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que quand on vient à Jésus, notre âme n'est pas changée instantanément. Notre âme a besoin d'être renouvelée et transformée au fur et à mesure. Amen. Il faut changer la façon qu'on pense. C'est pourquoi, si vous êtes chrétien, vous ne devrez jamais vous laisser culpabiliser si, après avoir donné sa vie à Jésus, vous avez encore des fois des mauvaises pensées ou des mauvais sentiments ou des mauvais feelings ou quelque chose. Des fois, les personnes pensent, « Oh, mais peut-être je ne suis pas vraiment sauvé ou changé parce que j'ai encore des idées qui viennent dans ma tête. J'ai encore le goût de faire le mal. J'ai encore des choses qui ne marchent pas. » Et ça, c'est normal. Il faut que tout cela soit transformé, comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. On n'a pas ça sur le PowerPoint, mais Romains 12, 2, c'est un verset clé. Parce que si vous commencez à méditer la parole de Dieu et à mettre la parole de Dieu en pratique, ça va changer votre façon de penser. Votre âme va devenir, quoi? Prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Si tu penses que tu es nul, tu vas agir comme un nul. Si tu penses que tu es intelligent, tu vas agir plus intelligemment. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu a des bonnes choses à nous communiquer. Regardons ceci. On voit dans la parole de Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à la prospérité. Et aujourd'hui, mon plus grand défi, c'était de décider qu'est-ce que je n'allais pas prêcher. Est-ce que vous avez entendu? Parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de versets qui parlent de la prospérité et de la volonté de Dieu pour, il veut que rien soit brisé, que rien manque dans sa vie. Il y a tellement, tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu que j'avais besoin avec beaucoup de peine à couper et couper encore et couper encore. Et Seigneur, c'est quoi exactement que tu veux que je dise aujourd'hui? C'est quoi le message dont nous avons besoin afin de pouvoir saisir et mettre en pratique ta parole? Et je crois que j'ai réussi. Je crois. Mais la première chose qu'on a besoin de savoir, c'est que si on va être prospère, il faut prospérer dans son âme. Et prospérer dans son âme, ça veut dire aussi d'avoir les bonnes pensées et les bonnes attitudes. Regarde, quelqu'un a dit, il faut avoir des bonnes pensées et les bonnes attitudes. Si vous n'avez pas la bonne attitude, ou si vous ne pensez pas la bonne chose, vous n'allez pas avoir la bonne action ou vous n'aurez pas le bon résultat. Amen? On voit cela partout. Hein? Si on pense la bonne chose, on fait la bonne chose. Et si on fait la bonne chose, on a le bon résultat. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Parce que pas parce que je le dis, parce que c'est biblique qu'est-ce que je suis en train de dire là. On a vu Jérémie 29, 11 la semaine passée. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Une traduction dit, je connais les pensées que j'ai à votre égard. Les pensées de vous prospérer, les pensées de paix et pas de malheur. Dieu a des pensées de paix pour nous. Quand Dieu le Père pense à son Église, il pense des bonnes choses. Quand Dieu pense à vous individuellement, il pense des bonnes choses. Tu sais, quand Dieu pense à Lucas, il pense des bonnes choses. Un grand plan, un projet merveilleux, destiné à réussir. N'est-ce pas? Donc, et si Dieu pense comme ça, je crois que c'est pas du tout orgueilleux ou déplacé pour moi de commencer ou de viser à avoir et développer la même pensée à propos de moi-même. Je devrais penser la même chose que Dieu pense. Le problème, il y a un court-circuit qui se passe. Dieu, il est plein d'amour, plein de bonté, plein de puissance, plein de provision, et il veut communiquer ses bénédictions à nous. Il a des pensées, des projets de paix pour nous, de shalom pour nous. Mais le problème, c'est que nos pensées ne sont pas en ligne avec ses pensées. Et ça fait un court-circuit, et on n'est pas capable de marcher dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie. Allô, est-ce que vous me suivez? Donc, Il faut avoir la bonne pensée. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut penser la même chose que Dieu pense. Allô? Donc, qu'est-ce qu'on doit penser? Là, parce que spécifiquement, on va parler aujourd'hui, les deux, trois, quelques semaines, juste avant que Pasteur John Madden vienne de la France pour prêcher sur le mariage, on va faire quelques semaines sur la prospérité et la paix dans vos finances. Et là, déjà, j'ai perdu 25%. Parce que, et vous allez voir quelque chose. Souvent, quand on dit cela, c'est un mot qui peut être stressant. Mais c'est pas supposé d'être stressant. Dieu veut qu'on soit prospère, mais pour être prospère, il faut développer la bonne attitude. Mais pour avoir la prospérité à tous égards, ça veut dire quoi, hein, comme je dis, à tous égards? J'ai une révélation profonde. Tous veut dire quoi? Tous. Il n'y a rien qui est exclu. Vous êtes supposé de prospérer à tous égards, à l'exclusion de... Il n'y a pas d'exclusion. Vous êtes destiné à prospérer. Et même au niveau de vos finances, vous êtes supposé de prospérer. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que dernièrement, j'entends beaucoup parler. On ouvre la radio, on ouvre la télévision et les gens parlent des problèmes qui s'en viennent, les commentateurs, les personnes qui parlent d'une récession aux États-Unis qui va faire un impact ici au Canada, etc. Ils parlent d'un dollar canadien qui est trop fort, et puis tout cela, ils parlent de toutes sortes de problèmes, des problèmes qui peuvent être assez graves. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas assujetti ou limité par l'économie du Canada ou par l'économie des États-Unis. Peu importe qu'est-ce qu'il y a. Nous ne sommes pas limités. De la même façon que nous ne sommes pas limités, et je suis content, par la connaissance des médecins. Est-ce que vous êtes content d'avoir des médecins? Moi, je suis vraiment content. On a eu 5 enfants et je suis content d'avoir eu un médecin et des infirmières présents à chaque fois. Moi, j'étais là, j'ai assisté, mais j'ai assisté, c'est ça. J'ai coupé la corde. J'ai coupé la corde et avec notre 5e, j'ai même, c'est moi qui a aidé le médecin à faire sortir ma fille. Ça, c'était une expérience incroyable. Mais quand même, je n'aurais pas fait ça tout seul. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que des fois, on arrive dans la vie, on a une situation où c'est bon d'avoir l'aide des personnes naturelles autour de nous qui peuvent nous donner un coup de main, qui peuvent nous aider. Mais je suis content que si je suis vraiment dans le besoin physiquement, si mon corps est attaqué par une maladie, je suis content que je ne suis pas limité par la connaissance des médecins. Que j'ai un grand médecin qui connaît tout et qui peut tout guérir. Amen. Mais je veux juste que vous sachiez, hein, ce grand médecin que selon la Bible, on le voit révélé dans les Écritures, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mais ce même Dieu, il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, l'Éternel qui voit et qui pourvoit. Et je suis content que je ne sois pas limité par l'économie du Canada, l'économie du Québec, l'économie des États-Unis ou l'économie mondiale. Peu importe qu'est-ce qui se passe, Dieu va prendre soin de son Église. Mais il faut qu'on pense comme ça. Et c'est pourquoi on fait ce message. Donc, numéro 1, développer la bonne attitude à propos de Dieu. On parle d'une clé. Comment prospérer? Comment découvrir les clés de la prospérité? Il faut avoir les bonnes attitudes. Et on va parler de 3 attitudes aujourd'hui. La première, c'est développer la bonne attitude à propos de Dieu. Si vous ne pensez pas la bonne chose à propos de Dieu, vous ne serez pas capable de recevoir de lui de la bonne façon. Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que je viens de dire? Si vous ne pensez pas la bonne chose à propos de Dieu, vous ne serez pas capable de recevoir les bonnes choses de lui comme il faut. Et trop de chrétiens ils ont une image de Dieu. Qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu? C'est pas basé sur la Bible. C'est pas basé sur la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est basé sur soit leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont observé dans le monde, ou basé sur la religion ou les traditions des hommes. Qu'est-ce que les autres hommes ont dit à propos de Dieu? Allô? Et si votre image de Dieu est basée uniquement sur votre expérience ou sur les opinions des autres, vous n'avez pas la bonne attitude par rapport à Dieu. Et qu'est-ce qu'on va voir? Regardons plusieurs choses qu'on va, on va observer à propos de notre Dieu, qui est tellement bon, qui est amour. Premièrement, Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia! Regarde quelqu'un et dit, Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. On le voit. On le voit juste dans sa création. On voit que quand Dieu a fait les étoiles, il en fait pas mal. Vous êtes d'accord? Quand il a fait, on avait un invité à l'école biblique, Raymond, hier, et il parlait de quand Dieu a dit à Abraham, regarde le sable et regarde les étoiles, c'est innombrable. Imaginez, comptez toutes les graines de sable qui se trouvent sur une plage. Et puis pensez à toutes les plages qui existent sur la planète Terre. Et juste pensez à l'immensité de la création de Dieu, à l'abondance de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'abondance. Quand Dieu fait quelque chose, il fait grand. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de penser comme Dieu pense, de penser grand. Si vous pensez petit, comme j'ai dit la semaine passée, si vous pensez que vous êtes né pour un petit pain, vous allez toujours avoir un petit pain. Allô? Et le problème, c'est que il y a des personnes qui pensent que ça c'est l'humilité, mais c'est pas l'humilité. Ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère disait les choses comme, mais tu sais, oh, juste donne-moi une petite cabane quelque part dans le coin du ciel et je serai contente pour l'éternité. C'est correct, mais c'est vrai, une petite cabane au ciel, c'est mieux qu'un palais à l'enfer, vous êtes d'accord? Mais je suis pas sûr que c'est qu'est-ce que mon Dieu Tout-Puissant veut pour ma grand-mère. Moi, j'aime ma grand-mère. J'étais proche avec elle. J'ai vécu avec elle pendant des années sous le même toit. Après le divorce de mes parents, ma grand-mère, c'est une des personnes les plus précieuses dans ma vie et je l'aime de tout mon cœur. Et je suis presque ému là. Je suis ému. J'ai presque les larmes aux yeux juste en parlant de ma grand-mère. Imaginez, l'amour que j'ai pour ma grand-mère est rien comparé à l'amour de Dieu pour ma grand-mère. Penses-tu que mon Dieu Tout-Puissant va vouloir juste donner une petite cabane? Hein? Non, je crois que mon Dieu va vouloir bénir grand-maman. Et ça, c'est pas mauvais. Allô? Dieu est un Dieu d'abondance. Je pense qu'on va être émerveillé, étonné quand on va voir Jérusalem céleste pour la première fois. Quand vous allez voir les rues d'or, quand vous allez voir le paradis, ça va être au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Vous êtes d'accord? Et Dieu est un peu extravagant. Vous êtes d'accord? Regarde ce verset ici. Vous dites, oh, mais ça, c'est pour le ciel. Mais regarde, même pour ceux qu'il fait sur la terre, regarde ici, psaume 65, verset 8. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. J'aime ça. Dieu remplit d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre, et tu lui donnes quoi? L'abondance. Est-ce qu'on parle d'une abondance juste au ciel? Tu visites la terre, et tu lui donnes quoi? Tu visites la terre, et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses filons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas, j'aime ce verset, tes pas versent l'abondance. Quand Dieu marche, il laisse les traces d'abondance. Et nous sommes créés en son image, n'est-ce pas? Je crois que on devrait, et on voit cela, regarde, on peut penser à Abraham. Abraham était un homme fort riche, la Bible dit. C'est un homme qui craignait Dieu, qui croyait en Dieu, et qui était, qui a reçu la justice imputée parce qu'il a fait confiance en Dieu. Et à chaque place où Abraham allait, il laissait des traces d'abondance. Même au moment donné, le pays où il se trouvait n'était pas assez grand pour contenir tous les biens qu'il possédait avec son neveu là. Et c'est pourquoi ils avaient besoin de dire, bon, mais on peut plus rester ensemble, on a trop de biens, trop d'abondance, trop de richesses, il va falloir qu'on choisisse chacun sa place, chacun une place différente pour rester, pour vivre. Allô? Wow! Dieu est un Dieu d'abondance. Il faut qu'on... Wake up! Réveillez-vous! Réveillons-nous! On n'a rien vu à date. Mais j'aime ça. C'est pas vers de l'abondance. Donc, il est un Dieu d'abondance. Il est aussi généreux. N'est-ce pas bon? C'est pas juste un gars... Dieu n'est pas comme un... On peut avoir une image d'un... quelqu'un qui est hyper riche, mais qui est toujours égoïste. Et toujours, c'est quoi le mot? Tout d'un coup, c'était là, je l'ai perdu. Hein? Gratteux, c'est ça. Dieu n'est pas gratteux. Il est généreux. Et je sais, parce que la Bible dit, n'est-ce pas? Jacques 1:5, si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera, car à tous, il distribue ses dons. Comment? Plus fort! Généreusement, et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance, et Dieu est un Dieu qui est généreux. Il donne la sagesse avec abondance. Il donne toutes les choses dont nous avons besoin avec abondance. Bien entendu, n'oubliez pas, il y a des principes que nous avons besoin de comprendre. Ces choses ne vont pas venir à nous juste automatiquement. C'est pourquoi on parle de découvrir les principes de la prospérité. Même si Dieu est un Dieu d'abondance, même s'il est un Dieu qui est généreux, il faut être capable de recevoir sa générosité. Et une chose, la première chose qui est nécessaire, c'est de penser de la bonne façon. Parce que si vous pensez que Dieu est gratteux, vous n'êtes plus dans une position de recevoir de lui. Si vous pensez que Dieu veut vous donner pas assez ou juste assez, vous n'êtes pas dans une position de recevoir l'abondance de lui. Amen. Donc, il est un Dieu d'abondance, il est généreux, et puis, il est un bon père. Ça, c'est une chose qu'il faut penser. Il est un bon père. Sur la planète Terre, il y a des bons pères, il y a des moins bons. Mais au ciel, notre Dieu, il est un bon père. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec ça. Mais regardons Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Prochaine fois que vous entendez une émission à la radio qui dit récession, problème, ils vont fermer les usines, ils vont slacker les employés, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ne tombez pas dans le piège de dire, mais que mangerons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Dites pas ça. Ne vous inquiétez donc point, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les, quoi, recherchent. Votre Père Céleste, souligne le mot Père, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout, quoi? quelles choses? Nourriture pour manger, vêtements pour porter, logement, appartement, maison pour vivre, et toutes les autres choses dont vous avez besoin, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia! Gloire à Dieu! Mon Dieu est un Dieu d'abondance, il est un Dieu généreux, il est un bon père, et mon papa ne va pas me laisser crever de faim. Amen! Il faut y croire. Alléluia! Alléluia! Donc ça, c'est la première chose. Développer la bonne attitude à propos de Dieu. Deuxième chose, développer la bonne attitude à propos des richesses. Juste, il y a des personnes qui pensent que juste dire le mot richesse dans une église, c'est pas correct. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de Dieu. Et ils n'ont pas compris la nature des richesses. On va le dire trois fois, juste pour... Okay. On va dire, OK? Richesse, richesse, richesse. OK. Bon. C'est correct? Tout le monde est à l'aise, confortable? OK. N'ayez pas peur. Hein? L'offrande a déjà passé. Hein? On ne demande pas autre chose. Hein? C'est pas ça? Pas du tout ça. En fait, ça, c'est le plus grand problème souvent dans la tête, dans la pensée des chrétiens. Ils pensent que Dieu veut enlever les choses, mais en réalité, Dieu veut déverser sur vous. Il veut vous remplir d'une telle abondance que vous ne pouvez même pas la contenir. Et quelqu'un qui est à l'aise avec ce principe va être dans une position de le recevoir. Je suis bien à l'aise. Est-ce que tout le monde, regarde, quelqu'un a dit, je suis bien à l'aise. Regarde, quelqu'un d'autre dit, j'aime ça parler de la richesse dans l'Église. Pourquoi pas? Vous en parlez la journée longue en dehors de l'Église. Pas toujours dans le bon sens. Mais qu'est-ce qu'on veut? Les richesses, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que les richesses ne sont pas négatives. Les richesses sont neutres. C'est ce que vous faites avec les richesses qui compte. C'est votre attitude par rapport aux richesses. Si les richesses ont pris la place de Dieu dans votre vie, c'est sérieux. Si vous aimez les richesses plus que vous aimez Dieu, vous êtes dans le trouble. Mais si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu va savoir, son cœur est droit, j'ai pas peur de lui bénir parce qu'il va pas se laisser égarer par l'abondance. Il est capable de gérer l'abondance. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer l'abondance, vous n'allez jamais abonder. Est-ce que c'est assez clair? Regardons ceci. En fait, je ne pense pas que j'ai fait ça sur le PowerPoint, mais on va regarder Marc chapitre 10. Si vous avez une Bible avec vous, si vous n'avez pas une Bible, regarde quelqu'un à côté de vous avec une Bible ou écoutez. Parce que voici, c'est une histoire, un récit de Jésus avec le personnage qu'on appelle le jeune homme riche. Vous vous rappelez de lui? Regardons ceci, c'est super important. Marc, chapitre 10, et on va commencer à verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Souvenez cette phrase. J'ai observé toutes ces choses. Donc ce jeune homme dit dans le fond, j'ai observé toutes les choses que tu viens de dire, Jésus. Dès ma jeunesse, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. N'est-ce pas bon de savoir que Jésus nous aime? Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Plusieurs choses que je veux souligner juste rapidement. Le jeune homme, dès sa jeunesse, a obéi et respecté les commandements de Dieu, n'est-ce pas? C'est mon opinion, mais je crois que ça, c'est une des raisons pourquoi il avait de grands biens. Et on va voir cela ailleurs dans la Bible. C'est une des raisons. C'est pas toujours le cas. Il y a des hommes méchants qui sont voleurs et qui sont gratteurs et qui sont pleins d'avrice et eux autres, ils sont full riches aussi. Mais ils sont pauvres dans l'esprit. Mais il y a d'autres personnes qui ont respecté, honoré la loi et la parole de Dieu et Dieu les a bénis à cause de ça. Mais le problème ici, c'est que ce jeune homme, il n'avait pas les bonnes priorités. Il aimait ses richesses plus qu'il aimait Dieu, n'est-ce pas? Il n'était pas prêt. Il avait de grands biens, mais ce n'est pas vraiment le cas. Les biens le possédaient. Il était lié à ses biens. Et il refusait de se séparer avec ses biens afin de suivre Jésus. Ça, c'est sérieux. Vous êtes d'accord? Mais tout de suite, on dit, mais tu vois, Jésus a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Jésus ne voulait pas qu'il ait des biens. Non, c'est pas ça. On va voir. Jésus ne voulait pas que les biens le possèdent. Jésus voulait le libérer de l'avarice, de l'amour de l'argent. Amen. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Jésus dit, et la parole de Dieu dit, pardon, que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donnez, il vous sera donné une bonne mesure, serré, secoué, qui déborde. Moi, je suis convaincu d'une chose. Si ce jeune homme aurait donné tout ce qu'il avait vendu, donné aux pauvres, que le Seigneur aurait redonné. Et cette fois-ci, son cœur aurait été droit avec Dieu. Peut-être pas, c'est mon opinion. Mais quand même, regardons ceci. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il continue, verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des, quoi, richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Donc, si vous avez l'idée que les disciples de Jésus étaient en gang de pauvres, et qu'ils ne faisaient du ministère que aux personnes qui n'avaient rien, pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement étonnés? Ils étaient étonnés. Ceux qui ont des richesses, ça va être difficile pour eux d'entrer dans le ciel. Et les disciples étaient étonnés. Regardons ceci. Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. » Donc, il va clarifier qu'est-ce qu'il veut dire. C'est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses. Et j'avoue que quelqu'un qui n'est pas mature dans le Seigneur va avoir de la difficulté à gérer les richesses. Et donc, c'est pourquoi souvent les personnes, il y a des personnes que pour eux, c'est mieux de ne pas avoir grand-chose, parce que s'ils ont grand-chose, ils vont tourner vers l'idolâtrie. Vous êtes là? Mais moi, j'aimerais mieux régler les choses dans mon cœur pour être capable d'être béni par Dieu. Et on va voir pourquoi je veux être béni. Et pourquoi vous devrez vouloir être béni dans quelques minutes, ok? Donc, est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, il dit, combien c'est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'un œil qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Est-ce que vous voyez cela? Enlevez vos lunettes religieuses, ok? J'en vois encore dans la salle. Juste dans vos expressions, hein, c'est comme... Encore! C'est les Juifs qui parlent ici, n'est-ce pas? Les Juifs sont reconnus pour être quoi? Veux pas, souvent. Pourquoi? Parce que Dieu a béni Abraham et Dieu a mis les lois en place et les ordonnances en place en disant que si tu respectes ceci, si tu respectes cela, il a promis de les bénir et de leur donner les choses en abondance. Donc là, si on a des Juifs qui sont bénis, qui ont des biens, et les disciples, si les riches sont difficilement sauvés, qui peut être sauvé? Nous sommes une nation des riches, dans le fond. Allô? Je sais que ça sonne cloche des fois avec vos idées religieuses, mais regarde les choses comme faut. Jésus, les gens pensent, mais Jésus était pauvre, n'est-ce pas, quand il était sur la terre? Non, il avait de quoi manger, n'est-ce pas? Et en plus, il avait l'habitude de donner aux pauvres, parce que quand Judas est allé le trahir, les gens pensaient qu'il est allé, oh, mais peut-être il est allé distribuer des choses aux pauvres, parce que c'est lui qui faisait quoi? Qui prenait soin de la bourse. Donc Jésus avait une bourse, et il se promenait avec sa propre bourse, et il avait l'habitude pas juste de donner de quoi manger à ses 12 hommes. Imaginez, est-ce combien de vous serez capable aujourd'hui de partir pour 3 ans et de nourrir 12 personnes à tous les jours, 3 fois par jour, et en plus de donner aux pauvres? Combien de vous serez capable de prendre 12 personnes et d'aller manger chez Valentine aujourd'hui? Il y en a, c'est difficile juste de penser. Moi, je vais dire une chose, ça serait quand même un défi pour moi d'amener 12 personnes au restaurant et d'acheter un bon repas. C'est quand même, ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Mais Jésus se promenait pendant 3 ans, il prenait soin de ses 12 hommes et il donnait aux pauvres en plus. Là, je vois les lunettes tomber par terre. Il y a quelques ans, c'est comme, oh, c'est vrai. Et quand il était crucifié, les vêtements qu'il portait, la Bible dit qu'il n'y avait même pas de couture. Et les gens ont tiré les lots au sort pour savoir, hey, moi je veux ce vêtement-là. Je sais pas. Juste des choses à penser. Ouais, mais Joseph était pauvre, c'est pourquoi Jésus était obligé d'être né dans une étable. Non, il n'y avait pas de place dans les hôtels. Pas de place. Ils n'ont pas dit que Joseph n'avait pas les moyens de payer un hôtel. Joseph, il n'y avait pas de place. Vous êtes d'accord? Donc, pensez à ça. On parle des richesses ici. Il faut avoir la bonne attitude. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que c'est Dieu qui vous donne le pouvoir de les accueillir. Je sais que ça tombe difficilement dans le cœur de certaines personnes de penser cela, parce que dans votre cœur, dans votre tête, vous avez toujours pensé que Dieu avait une attitude négative par rapport à la richesse. Combien de vous, avouez-le, vous avez au moins une fois ou pendant une saison de votre vie, vous pensiez que Dieu était contre l'idée que ses enfants aient des richesses? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croyait au moment donné dans sa vie que la volonté de Dieu vraiment pour ses enfants, c'est qu'ils restent pauvres? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y en a. Il y a au moins 50% de la salle. Pourquoi est-ce que je prêche ce message aujourd'hui? Parce que Dieu veut vous donner une année de paix et de prospérité et une vie de paix et de prospérité. Et Dieu veut que vous ayez de la paix dans vos finances. Et si vous ne pensez pas à la bonne affaire, vous n'allez pas pouvoir recevoir la bonne affaire. Regardons ce verset. Garde-toi, et c'est Dieu qui parle à ses enfants juste avant qu'ils vont aller prendre possession de la terre promise, un pays qui coule avec le lait et le miel. Mais il dit quelque chose. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Encore, c'est le mot richesse, n'est-ce pas? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la quoi? La force pour les accueillir. Pourquoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, quoi? Son alliance. Vous devriez souligner cette phrase. Afin de confirmer son alliance. Afin de confirmer son alliance. Regardez-moi droit dans les yeux. Dieu veut vous donner le pouvoir d'accueillir les richesses afin, pourquoi? De confirmer son alliance. Dieu veut bénir son peuple, mais c'est afin d'établir et de confirmer son alliance. Pourquoi est-ce que Dieu veut que l'Église soit bénie aujourd'hui et les membres de l'Église soient bénis? C'est parce que nous avons le message de la vie dont le monde a besoin. Et si tout le monde, dans toutes les églises, imaginez, si toutes les églises sont cassées, si tous les membres de l'Église sont cassés, si personne n'a un sou noir, on ne peut pas mettre un gallon ou un litre de gaz dans le char, ou on ne peut pas faire quoi que ce soit, on ne peut pas acheter une seule Bible, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Comment est-ce que les personnes, il y a 6 milliards d'hommes et femmes qui habitent sur la planète Terre et la moitié n'ont pas encore entendu l'Évangile de Jésus-Christ. La moitié. Comment est-ce qu'ils vont entendre? Bonne question, n'est-ce pas? Donc, l'attitude qu'on doit avoir à propos des richesses, c'est « Dieu me donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Si je suis capable de travailler, c'est parce que Dieu m'a donné la force. Si j'ai eu la faveur au travail, c'est parce que Dieu m'a donné la faveur. Si j'ai eu des promotions, c'est parce que Dieu m'a donné les promotions. » Et plus vous êtes au courant de cela, que Dieu veut vous rendre puissant dans votre travail, et il veut vous donner le pouvoir d'acquérir les richesses afin de pouvoir faire avancer son royaume, plus vous serez en position de recevoir de lui. Amen. On va lire juste un autre verset, juste pour montrer que Dieu donne les richesses. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Combien? Beaucoup. Est-ce que c'était un homme méchant? Non, tu lis la Bible, tu vas voir que, mais bien entendu, il y avait des moments, mais c'est quand même, on parle ici de quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or et de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut, quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que le gars était pas mal à l'aise? 28. Des magasins pour des produits en blé, en moût et en huile, des crèches et pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes. OK? Il se bâtit des villes et il eut une abondance des troupeaux de menus et de gros bétail parce que c'était un gros méchant qui volait tout le monde. C'est ça qui est marqué? Non, car Dieu lui avait donné des quoi? C'est qui a donné ses biens? C'est qui a donné les biens? Wow! Changez votre façon de penser. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Quoi? Oh, mais ça, c'est spirituellement, n'est-ce pas? Hier, on vient d'avoir un cours au Centre de formation biblique, vraiment, sur comment interpréter la Bible. Hein, c'est des principes des herméneutiques, OK? La science de bien interpréter la parole de Dieu. Et une des choses que tout le monde sait, si on veut interpréter la parole comme il faut, c'est qu'il faut toujours considérer le contexte d'un verset. Il ne faut jamais sortir un verset de son contexte parce qu'en faisant ça, on fait un prétexte, n'est-ce pas? Mais le contexte de ce verset est vraiment clair. Tout chapitre 8 et chapitre 9, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'Église des Corinthiens à préparer une offrande généreuse afin de pouvoir aider les pauvres à Jérusalem. Est-ce que vous avez entendu? Lisez ça vous-même, 2 Corinthiens 8 et 9, vous allez voir, l'apôtre Paul, pendant un an du temps, il a préparé cette église pour donner une offrande volontaire pour aider les pauvres. Allô? Et il parle de cela, il parle du fait que si vous êtes généreux et si vous semez beaucoup, vous allez récolter beaucoup, etc., etc. Donc ça, c'est tout le contexte. Il parle pas des richesses juste spirituelles, il parle dans ce contexte des richesses naturelles. Parce que encore, les richesses naturelles ne sont pas négatives. Nous en avons besoin afin de vivre ici sur la terre. Vous êtes d'accord? Si vous ne croyez pas, arrêtez de payer votre loyer. Arrêtez de payer votre hypothèque. Arrêtez de payer Hydro-Québec. Arrêtez, prochaine fois que vous allez pour mettre du gaz dans le réservoir, partez sans payer. Et vous allez découvrir vraiment rapidement, ça prendrait pas du temps, et vous allez vous rendre compte du fait que vous avez besoin de richesses ici sur la terre afin de fonctionner. Amen? Mais regardons ceci. C'est super intéressant. On a vu que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de prospérer, de pouvoir d'acquérir les richesses, mais il ne faut pas mettre notre espérance dans les richesses. Ne mettez pas votre espérance dans les richesses. Donc, Dieu veut nous les donner. Il ne faut juste pas laisser les richesses nous posséder. Nous posséder. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de devenir pauvres. Recommande aux riches du présent siècle de se repentir, parce que c'est méchant, ça. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, oui. Et de ne pas mettre leur, quoi? Espérance dans des richesses, quoi? Incertaines, mais de la mettre en... Et voici la deuxième partie qu'il faut pas oublier. Parce que c'est trop facile de dire, oui, tu vois, on peut avoir l'impression que Dieu est contre les richesses, mais il continue, mais de mettre en Dieu qui nous donne avec... Ah, wow! Il nous donne avec quoi? Il nous donne avec abondance des choses spirituelles. Il nous donne avec abondance quoi? Toutes choses pour que nous en puissions. Donc, Dieu n'est pas contre l'idée que vous ayez des richesses, mais il est bien contre l'idée que les richesses vous possèdent. Amen. En Timothée 6, 9, on voit un avertissement super important. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Ça vous tente pas, hein? La ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Est-ce que l'argent est la racine de toutes sortes de maux? Non. C'est l'amour d'argent. C'est pas l'argent qui est la racine de toutes sortes de maux. Parenthèse. OK? Alors, regarde ce qu'on a dit, parenthèse. Parce que je sais... C'est venu dans mon esprit. Il y a quand même quelques-uns de vous, ce matin, vous pensez que ce message est pour les autres. Parce que vous ne croyez pas encore que Dieu veut et peut vraiment vous prospérer. Ça fait trop d'années que vous vivez avec pas assez ou juste assez. Vous avez vécu comme ça, vos parents ont vécu comme ça, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et vous êtes bien habitués à votre petit pain. Et laissez-moi vous dire que Dieu veut vous donner toutes choses avec abondance. Allô? Est-ce que je suis en train de dire ce matin que Dieu veut faire des millionnaires de chacun de nous? Non, je ne suis pas du tout en train de dire cela. On a plus que ça, on a un conjoint avec le Fils de Dieu déjà. Et tout ce dont nous avons besoin, nous avons accès à cela, n'est-ce pas? Et Dieu va, selon sa sagesse et grâce, il va distribuer à chacun ce que la personne est capable et supposée de gérer comme économe pour le royaume de Dieu. Mais sachez que vous êtes aussi important que n'importe qui dans la salle. Amen? Bon, on ferme la parenthèse. Super important. L'amour d'argent est racine de toutes sortes de maux pour s'y être abandonné. Certains se sont égarés très loin de la foi et ne sont infligés beaucoup de tourments. Laisse-moi vous donner un avertissement encore. Si vous commencez à mettre plus d'énergie à courir après les richesses, à courir après votre carrière, à courir après l'argent, vous allez vous égarer. Mais si vous courez après Dieu, Si votre cœur est consommé par le désir de voir les nations évangélisées, de voir les âmes sauvées, et vous voulez être béni afin de bénir les autres, laisse-moi vous dire, préparez-vous, attachez vos ceintures, parce que Dieu va répandre sur vous une bénédiction que vous ne pouvez pas contenir. Amen. Ça, c'est l'autre point. Dieu veut vous bénir afin que vous puissiez bénir les autres. Alléluia! C'est le fun! Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai, n'est-ce pas? Regardons. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore un abondance. Pourquoi? Toute bonne œuvre. Bon. Là, est-ce qu'on a réussi à enlever toutes les lunettes religieuses ce matin? Est-ce que tout est correct maintenant, oui? Bon, la ceinture est attachée et tout. Attachez vos tuques. Parce que regardons. Parce que sinon, vous ne serez pas prêt à vraiment lire le prochain verset. Encore, n'oubliez pas que c'est dans le contexte de l'apôtre Paul qui exhorte les Corinthiens à préparer une offrande généreuse pour aider les pauvres. Il dit, 2 Corinthiens 9, 11, « Il vous rendra suffisamment... » Quoi? C'est qui va vous rendre riche? Là, je vais vous demander à dire quelque chose et de méditer quelque chose. OK? Dans le contexte, dans la lumière de qu'est-ce qu'on sait que Dieu veut nous bénir afin qu'on puisse bénir les autres. Je ne suis pas en train de dire que Dieu veut que tout le monde devienne millionnaire, mais Dieu veut que tout le monde ici soit riche. Et on va le dire, Dieu veut que je sois riche. Regarde quelqu'un d'autre et dis, Dieu veut que tu sois riche. Mais ces richesses ne sont pas automatiques. C'est pas automatique, c'est pas tout le monde. Il parle à qui? Il parle à nous, mais il parle spécifiquement aux Corinthiens qui vont. Dans le fond, il est en train de dire, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, il n'est pas en train de dire que tous les chrétiens vont être riches. Mais tous les chrétiens qui ont le bon cœur, qui aiment Dieu plus qu'ils aiment l'argent, et qui sont motivés par le désir de faire l'œuvre de Dieu et aider les autres et d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui ont exercé leur foi pour donner quand Dieu nous demande de donner, ces personnes-là sont positionnées pour verset 11. Il vous rendra, vous qui avez rencontré le critère, il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez, quoi? Sans cesse, vous montrer... Oh! Wouh! C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront qui? Dieu, pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Parce que vous, Corinthiens, vous allez donner généreusement et nous allons apporter cette offrande à Jérusalem et distribuer ça aux pauvres à Jérusalem. Tous les saints, tous les chrétiens, les hommes et les femmes à Jérusalem, ils vont remercier Dieu. Dieu, merci! Parce qu'à Jérusalem, à l'époque, il y avait une famine. Dans le naturel, il y avait plus qu'une récession, une famine, les choses n'allaient pas bien, mais Dieu a pris soin des chrétiens à Jérusalem en se servant des chrétiens en Corinthe. Amen? Et il a dit que, une autre fois, ça va être peut-être dans l'autre sens. Lisez 2 Corinthiens 8 et 9. Mais ils vont remercier Dieu pour votre don que nous aurons transmis de votre part. Savez-vous que Dieu veut vous bénir, pas dans le but de vous glorifier, mais Dieu veut vous bénir dans le but d'être glorifié lui-même. Et quand les gens vivent la vraie prospérité qui n'est pas infectée ou tordue par l'avarice, qui n'est pas tordue par l'égoïsme, la vraie prospérité qui est généreuse et qui donne et qui donne et qui donne et qui reçoit davantage et qui donne davantage, c'est comme ça que Dieu est glorifié. Amen. Donc finalement, numéro 3, et je n'ai que 10 minutes. À moins que vous voulez que j'arrête là. Non. Numéro 3. On a parlé de développer la bonne attitude par rapport à Dieu, par rapport aux richesses. Troisième chose que je veux juste mentionner aujourd'hui, bien important. Il faut développer la bonne attitude par rapport à vos besoins. Pourquoi est-ce que beaucoup des personnes ne sont pas prospères? C'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes pensées par rapport à Dieu. Ils n'ont pas les bonnes pensées par rapport aux richesses. Ils pensent que c'est mauvais, c'est méchant. Si vous pensez que c'est méchant d'être riche, vous ne serez jamais riche. Et encore, riche, c'est quoi? La définition de riche, c'est d'avoir de quoi satisfaire vos besoins et de vivre bien et d'avoir un superflu pour aider les autres. Amen. Mais troisième chose, il faut développer la bonne attitude à propos de vos besoins. On va le dire trois fois. Besoin. 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 Je ne sais pas c'est quoi qui est le pire, richesse ou besoin, mais des fois, maintenant j'espère que quand on dit richesse, vous allez dire, waouh, c'est une bonne chose, quand c'est fait et utilisé pour la bonne raison. Et qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que le mot besoin, ce n'est pas négatif non plus. Combien de vous, quand j'ai dit besoin, la première pensée ou la première réflexe que vous avez eue, c'était comme négatif? Quand on dit le mot besoin, est-ce que vous voyez ça positif ou juste soyez honnête, négatif? Moi, je vais avouer que pour moi, pendant longtemps, quand j'ai entendu le mot besoin, je pensais manquement. Pas assez. Besoin. J'ai besoin. Combien de vous, est-ce que je suis le seul comme ça? Mais tant mieux, vous êtes plus avancé que j'étais. Mais qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que les besoins ne sont pas négatifs aussi longtemps qu'il y a une provision pour rencontrer le besoin. Et qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu, dans sa sagesse et dans sa perfection, il a créé l'homme, il a placé Adam et Ève dans le jardin avec les besoins. Mais ce n'était pas problématique. Parce qu'avec le besoin, ils avaient besoin de manger. C'est pas problématique parce que avec le besoin, il y avait une abondante provision. Vous pouvez manger de tous ces arbres, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez, vous pouvez en manger, sauf il y a un arbre au milieu du jardin, il faut pas y toucher, ça c'est à moi, ça c'est à pas à vous, défendu. Mais bien entendu, c'est ça qu'ils ont fait. Mais savez-vous, il faut, si vous avez le moindre idée ou attitude que les besoins sont négatifs, vous n'allez pas être positionné pour prospérer. Les besoins ne sont pas négatifs. Aussi longtemps que nous savons que Dieu a toujours une provision pour rencontrer les besoins. Amen. Regardons ceci. On va voir juste les derniers versets. Philippiens 4, 19 dit, et on voit que Dieu pourvoit nos besoins selon toi, sa richesse. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est assez riche pour pourvoir tous nos besoins? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Encore, ce verset s'applique pas à tout le monde, ça s'applique à ceux qui font comme les Philippiens ont fait, parce que Paul est en train de parler à un groupe de chrétiens qui ont aidé Paul, qui ont semé, qui ont donné pour aider Paul dans ses œuvres missionnaires. Et il a dit, parce que vous m'avez donné, parce que vous avez envoyé à deux reprises de quoi satisfaire mes besoins. C'est ça que Paul dit. Lis le contexte. Tu as envoyé plusieurs fois de quoi satisfaire mes besoins. Maintenant, je sais que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9, 10. On retourne à 2 Corinthiens 9, 10. Regardons ceci. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez quoi? besoin et le fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Et dans les 5 minutes qui me restent, je veux terminer avec cette pensée. Moi, je m'en souviens, j'avais 20 ans, je pense. Je venais tout juste de sortir de l'école biblique. Et pendant des années, j'ai eu cette attitude. J'étais capable de citer Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais pour moi, mes besoins, c'était quoi? C'était quoi mes besoins? Mes besoins, c'est de payer les factures, acheter quelque chose à manger, et ce n'était pas beaucoup, on avait un budget de $30 par semaine pour toute la nourriture. C'était quand même bien, mais $30 par semaine. Et juste pour vous dire, hein, on était jeunes mariés, on voyageait pour prêcher ailleurs et tout, et la première année, on fait ça. On avait un revenu total pour payer pour tous nos besoins personnels et pour le ministère, $7,000. Donc, faites les mathématiques. C'est pas beaucoup, vous êtes d'accord? C'est beaucoup par rapport à quelques personnes, mais c'est pas énorme. Mais le problème, c'était entre mes oreilles. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Mes besoins, c'est quoi? C'est quoi dont j'ai besoin? J'ai besoin de payer les factures, mettre du gaz dans l'auto pour aller prêcher et acheter de quoi manger. J'ai besoin de ça. Bien entendu, je vais vous dire, et on va parler de ça une autre fois, on a toujours honoré Dieu, même avec $7,000, on a toujours, sans exception, on a toujours honoré Dieu avec les prémices de nos revenus, la dîme. Jamais, jamais, depuis ma jeunesse, depuis 9 ans, je fais ça. Mais, dans ma tête, j'ai mes besoins, quand j'ai mon Dieu pour voir mes besoins, j'ai besoin de payer mes factures et manger. Mais j'ai pas réalisé que j'avais besoin de plus que ça. C'était un besoin. C'est quoi dont j'avais besoin? Regardons, 2 choses. Premièrement, j'ai besoin du pain à manger. Est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde a besoin de manger? Qui n'a pas besoin de manger ici? Nous avons tous besoin de manger. Bonne nouvelle! J'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire à Dieu! Le problème, c'est que j'ai compris que c'est Dieu qui donne du pain à celui qui mange. Donc, Seigneur, j'ai besoin du pain pour manger. Point final. J'ai pas compris que j'avais également besoin d'une semence à semer. Dieu donne du pain à celui qui mange et il fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit. Qu'est-ce que Dieu donne? 2 choses. Pain et semences. Tout le monde dit pain et semences. Mon problème, c'est que je pensais que j'avais juste besoin du pain. Juste assez pour acheter le pain et vivre. Et j'avais pas la révélation que j'avais besoin d'une semence. Un fermier sait très bien que s'il ne fait que manger, il ne sème jamais, qu'il va peut-être survivre pour un hiver, mais l'année prochaine, il va être dans le trouble, n'est-ce pas? Et là, ça a cliqué dans mon cœur, j'ai besoin, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, j'ai besoin du pain, mais Seigneur, j'ai besoin de semences. C'est-à-dire que j'ai besoin d'assez pour payer mes factures, mais j'ai aussi besoin d'un superflu. C'est un besoin. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de ce superflu? Parce que j'avais besoin d'avoir de quoi donner. Et quand j'ai fait le changement dans ma tête, parce qu'encore j'étais un peu influencé par grand-maman, donne-moi une petite cabane au coin du ciel. Donne-moi juste assez pour payer mes factures, un peu du pain à manger, je suis correct. Mais je me suis rendu compte que non, j'ai besoin de plus. J'ai besoin du pain, j'ai besoin de semences, parce que plus je sème, plus je vais récolter et plus je vais être capable de participer dans toute bonne œuvre et me montrer généreux à chaque fois que l'occasion se présente. Tout le monde dit, j'ai besoin du pain? J'ai besoin d'une semence. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui, quoi? Donne avec joie. Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient, quoi? Plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous avez besoin du pain, vous avez besoin de semences. Et dans les semaines à venir, on va parler un peu plus d'autres principes qui vont vous libérer, qui vont vous positionner afin que Dieu puisse bénir vos finances. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je crois que le monde a besoin d'entendre ce message aussi. Parce que le monde, il cherche, qu'est-ce que je dois faire? Investir dans les rires, changer d'emploi, hein? Tricher sur mes impôts, qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu a un moyen de prospérer, et c'est l'Éternel qui enrichit, et il n'ajoute aucun chagrin. Amen. Donc, on va se lever debout, on va prier. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? L'année 2008, ça va être une année de paix, de prospérité. Alléluia. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui peut chercher Tania, mais juste avant d'aller aujourd'hui, on va quand même donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont ici de sonder son cœur. Je vous ai donné beaucoup de choses à méditer. J'ai annoncé que le Seigneur Dieu, qui est bon, qui est généreux, qui est un Dieu d'abondance, un bon Père, il veut vous bénir. Il veut vous donner avec abondance toutes choses. Il veut vous donner du pain à manger. Il veut vous donner une semence à semer, afin que vous puissiez participer à toute bonne œuvre. Mais Père Céleste, je te remercie que ce matin, au cas où il y a une personne présente qui n'a pas encore pris le premier pas. S'il y a une personne, un homme, une femme qui n'a pas encore pris une décision de donner sa vie à toi, ma prière c'est que ce matin, avant de quitter aujourd'hui, qu'ils vont prendre la décision, Seigneur, de ne plus mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous donne toutes choses avec abondance, afin qu'on puisse en jouir. Sachez que peut-être vous êtes là et vous avez eu des frustrations, vous avez eu des échecs, des déceptions. Et c'est peut-être parce que vous avez cherché et recherché le bonheur dans les richesses injustes. Vous avez peut-être cherché à combler le vide de votre cœur avec les choses, les biens. Des fois, c'est des biens matériels. Des fois, c'est des relations avec une autre personne, un autre homme, une femme. Des fois, il y a des personnes qui essaient de remplir le vide dans le cœur avec l'alcool, la drogue, le sexe. Mais sachez que ce matin, c'est seulement Jésus qui est le prince de la paix, le prince de Shalom, qui peut faire en sorte qu'il n'y a rien qui manque et rien qui est brisé dans ta vie. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Si tu es honnête avec toi-même et avec moi, pose-toi la question. Si en quittant l'église aujourd'hui, ton cœur arrête de battre et tu tombes mort, est-ce que tu as l'assurance à 100% que tu vas passer l'éternité au ciel avec le prince de la paix? Sinon, aujourd'hui, je te donne l'occasion de donner ton cœur à lui. Jésus a dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui... Tu sais dans ton cœur que tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Je vais juste compter à trois. Je vais taper ma main. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, tu es prêt à confesser devant les autres que oui, j'ai pas honte de Jésus. Jésus n'aura pas honte de moi. Juste lève ta main haut dans l'air et on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne sois pas gêné. Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait, je ne sais pas. Mais sinon, ne sois pas gêné. Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Donc, sinon, on va faire cette déclaration de la foi. Merci, Seigneur, pour ta paix. Tu es le prince de la paix. Je te donne ma vie, tout mon cœur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Merci pour une année de prospérité. Tu vas me combler cette année. Merci que j'aurai toujours de quoi satisfaire mes besoins. avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Parce que je vais mettre ta parole en pratique. Je vais obéir à tes principes. Je vais être dans une position de prospérer. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas...